France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, drame en cuisine, le suicide de Bernard Loiseau. Le 24 février 2003, à l'âge de 53 ans, ce chef triplement étoilé retourne son fusil de chasse contre lui. S'il laisse une femme et trois enfants, ce drame familial est immédiatement débordé par la polémique. Alors que le cuisinier n'a écrit aucune lettre, ni donné aucune explication à son geste, une grande partie de la profession accuse les guides Michelin et Goemio d'avoir précipité la fin de Bernard Loiseau. Le guide gastronomique rouge l'aurait menacé de lui retirer une étoile, tandis que le guide jaune venait d'abaisser la note de son restaurant. Votre appréciation aura coûté la vie d'un homme, lance Paul Bocuse dans les médias. Et c'est tout un système qui est tenu pour responsable de la mort de l'un des chefs français les plus talentueux au monde. Un système qui contraint des cuisiniers, en fait des artistes, à devenir chef d'entreprise. Un système qui ajoute à la pression des horaires, aux difficultés du métier, un culte de la performance, une guerre des étoiles. Notre invitée aujourd'hui, Marie-Aline, ancienne critique gastronomique pour GQ, Le Monde ou encore Le Fooding. Elle est l'autrice de l'ouvrage Les Bouffeurs Anonymes, paru l'année dernière chez HarperCollins. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Juliette Proutot, rédaction en chef, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca Donnant. Réalisation, Hélène Bizio.
Fabrice Drouel. Affaires Sensibles. Sur France Inter.
Ce lundi 24 février 2003 est un jour comme les autres. À la Côte d'Or, le célèbre restaurant triplement étoilé de Saulieu, une petite commune du département du même nom, dans le parc naturel du Morvan. Il est à peine 9h, et comme tous les jours, le chef du restaurant entre dans son établissement, en passant par la réception, le sourire aux lèvres et la fossette amusée. Ça va faire presque 30 ans qu'il tient son affaire. L'homme, débonnaire, généreux, tempétueux aussi, vérifie, comme à son habitude, les réservations du jour, se sert un café et file dans sa cuisine, où il passe la matinée enjoué et de bonne humeur. À la fin du service, comme d'habitude, il plie son tablier avant de quitter les cuisines. Enfin, comme d'habitude encore, il salue Stéphanie, son assistante, lance un « à demain » avec le sourire et se dirige chez lui, rue Gambetta, à 800 mètres de là pour sa sieste quotidienne. Il est 15h environ. Ses enfants sont à la maison. Les vacances scolaires ne se terminent pas avant le début de la semaine suivante. Bastien regarde un match de foot. Mais la météo est clémente et il y a du soleil. Alors, le père envoie le petit jouer dehors, dans le jardin. Et lui monte dans sa chambre et ferme la porte. Il est autour de 17h. Bernard Loiseau prend son fusil de chasse et se tire une balle dans la tête. Personne n'entend la détonation. Sa femme, qui travaillait dans les bureaux au-dessus du restaurant, arrive dans la maison à la recherche d'un papier administratif et elle découvre le corps. Dominique Loiseau vient de perdre son mari, le père de ses trois enfants. Et dès le lendemain matin, c'est la France tout entière qui se réveille sous le choc de l'annonce du décès de l'un des cuisiniers les plus talentueux, les plus audacieux et les plus respectés de la gastronomie française.
Bonjour à tous. La gastronomie française est en deuil. Elle perd l'un de ses plus grands chefs. Bernard Loiseau a été retrouvé mort hier après-midi chez lui à Saulieu. Il se serait suicidé avec un fusil de chasse. Une autopsie aura lieu aujourd'hui. Le chef cuisinier exerçait son talent notamment dans son hôtel-restaurant La Côte d'Or, classé 3 étoiles au Michelin. Mais dernièrement, l'action de son groupe coté en bourse ne décollait pas et le guide gastronomique Goemio l'avait rétrogradé de 2 points, ce que n'aurait pas supporté le célèbre cuisinier.
Immédiatement, la responsabilité des guides gastronomiques dans la mort du chef est engagée. Et les médias n'en démordent pas. Mais Bernard Loiseau, s'est-il vraiment suicidé à cause de 2 points perdus dans le Goemio, à cause d'une si légère décote dans sa réputation? Au fond, sait-on vraiment qui il était? Et puis, qui peut nier que tout suicide renferme sa part de mystère? Bernard Loiseau est né le 13 janvier 1951 à Chamalières, une petite ville du Puy-de-Dôme, connue depuis que l'un de ses habitants est devenu président de la République, Giscard. Cet environnement auvergnat les espaces naturels qui composent la région auront d'ailleurs une grande influence sur le futur chef, sur son tempérament, autant que dans sa cuisine. Mais il n'était pas destiné à devenir un grand chef gastronomique, ni même cuisinier d'ailleurs. Il vient d'une famille modeste. Son père est représentant de commerce, en bonneterie, et sa mère est charcutière. La famille vit dans un petit appartement avec toilette sur le palier, et une fois par semaine, tout ce petit monde file en direction des douches municipales. Le gamin est vif, dynamique, curieux. Le petit Bernard ne tient pas en place. C'est peu dire qu'à l'école, c'est compliqué. Rester assis sur une chaise et écouter quelqu'un parler, très peu pour lui. Sa scolarité chez les curés à Clermont-Ferrand est plus que chaotique. Bernard est un cancre, intelligent, mais dissipé. Il barre ses devoirs en mettant lui-même des zéros. Et quand il rate le certificat d'études, son père commence à sérieusement s'inquiéter. Pragmatique, il interroge son fils, lui demande ce qu'il veut faire dans la vie. L'adolescent n'en a aucune idée. Je sais pas. Cuisinier, ça te dirait ? Pourquoi pas ? Très bien, va pour cuisiner. Et ce faisant, et sans le savoir, le père vient de bouleverser le destin de son fils. Bernard Loiseau le raconte, avec sa verve habituelle sur le plateau de France 3.
Donc mon père était voyageur de commerce, il allait souvent à Rouen, et à cette époque-là, il y avait les tables d'hôtes, vous savez, où tous les VRP se réunissaient. De la France entière, c'est eux qui faisaient la pub d'un grand restaurant à l'époque. Il n'y avait pas les médias comme aujourd'hui. Et donc, il y avait une bonne tortore, comme dirait mon ami Pierre Perret. Et puis à partir de là, ils sont devenus copains, ils jouaient aux cartes ensemble le soir. C'était pas la renommée des trois gros qu'il y avait aujourd'hui, c'était dans les années 60. Et puis il leur a demandé de prendre, est-ce qu'ils voulaient prendre Bernard en apprentissage.
Un cancre, quoi.
Voilà, un cancre. Et je suis rentré à 17 ans, l'apprentissage chez les trois gros. Et là, j'ai eu le feu sacré tout de suite.
C'est donc par un heureux hasard que Loiseau se découvre le feu sacré, comme il dit. De fait, il n'arrive pas n'importe où. Quelques semaines après ses débuts dans les cuisines des trois gros, le restaurant obtient sa troisième étoile. Ce qui va changer la vie du jeune apprenti, parce qu'il comprend tout de suite que ce qu'il veut, c'est ça, le Graal. Ce sera son obsession, toute sa vie. L'impétrant a déjà la tête dans les étoiles. Pour autant, son apprentissage qu'il effectue aux côtés d'un certain Guy Savoie n'est pas un long fleuve tranquille. Le jeune homme confesse qu'il ne sait pas à quoi ressemble un homard ou une truffe. Et puis il sort tout juste du cadre strict d'un pensionnat catholique. Alors il a envie de profiter de la vie, de s'amuser. C'est dans son tempérament. C'est comme ça, il y a une énergie, pas très sérieuse, mais confiante et lumineuse qui émane de Bernard Loiseau. Alors il sort le soir, il fait la fête. Il raconte qu'il aurait souvent eu besoin de bâtons d'allumettes pour lui maintenir les yeux ouverts le matin, quand il prenait son service. C'est que les nuits sont agitées, mais les tâches sont rudes, et le rythme harassant au restaurant. Mais si Loiseau est un épicurien, c'est aussi un bosseur, ce qui n'a rien d'incompatible. Le travail ne lui fait pas peur. Régulièrement, il est chargé de préparer les fourneaux. Alors, aux aurores, il apporte le charbon, et pendant le service, entre deux préparations, il relance le brasier. Une fois, par enthousiasme et maladresse, il balance un pelleté de charbon dans une poêle qui contient le fameux saumon à l'oseille des Trois Gros. Sacrilège. Chez nos confrères de France Bleu, pour l'émission L'Étape Gourmande, Guy Savoie se souvient de ce jeune homme à la bouille expressive, plein d'allant, plein d'aplomb.
Lorsque je suis arrivé, donc, Bernard était, son titre d'ailleurs, il était premier apprenti chez Trois Gros, ce qui n'était pas rien, parce qu'on était 9 apprentis. Donc moi j'étais impressionné par cet aîné déjà qui n'avait plus un physique d'apprenti, en fait. Hein. Bernard, d'ailleurs, il l'annonçait toujours, il annonçait son pédigré, il disait Bernard Loiseau, 1m80, 80 kg, premier apprenti chez Trois Gros. En tant que premier apprenti, il connaissait toute la maison, il reconnaissait même les voitures des très bons clients rouennais qui rentraient dans la cour. Et il annonçait toujours au chef, voilà, monsieur un tel arrive, et c'était toujours... Il vivait la maison, en fait, comme si c'était la sienne. Et moi, c'est ce qui me fascinait, et cet enthousiasme... Bien sûr, était contagieux. Je crois qu'il avait vite compris que que la passion, dans nos métiers, ça doit être la maladie la plus contagieuse, quoi. Donc, et lui, il était très contagieux, en fait, parce qu'il avait, cette propension. Encore une fois, de par son physique, il avait déjà un air d'adulte. Et puis, il maîtrisait toutes les choses de la maison. Et on était, en fait, c'était le, il y avait Jean et Pierre Trois Gros numéro 1 et 2, et il y avait Bernard numéro 3, voilà.
Après 3 ans d'apprentissage chez les Trois Gros, Bernard Loiseau obtient son CAP de cuisinier en 1971. Il a tout juste 20 ans. Puis c'est le service militaire, puis il monte à Paris et fait ses gammes dans les cuisines de la barrière de Clichy, puis à la barrière Poquelin. Mais le tournant, c'est en 1975. Claude Verger, le restaurateur parisien, lui confie les clés de la Côte d'Or, un relais de poste un peu perdu à Saulieu dans le Morvan, au bord de la Nationale 6. L'établissement, triplement étoilé, avait été rendu célèbre dans les années 50 grâce à la cuisine d'Alexandre Dumaine, un chef très connu à l'époque. Mais quand l'oiseau débarque, c'est peu dire que la Côte d'Or est sur le déclin. Les étoiles obtenues par Dumaine ont toutes été perdues et les clients se font rares. Mais le jeune cuisinier de 24 ans se lance un défi. Rendre à cette table ses honneurs d'antan. Et personne n'y croit, sauf lui. Alors il apprend, s'applique, produit un travail acharné pour trouver sa cuisine. Une cuisine épurée, lestée des crèmes, sauces, fond de bouillon, pourtant incontournable à l'époque. En 77, 2 ans après son arrivée, il obtient sa première étoile. La deuxième arrive 3 ans plus tard. En 82, après 7 ans de gérance, l'oiseau rachète le restaurant. Il s'endette, se donne corps et âme et sa paye. En 1991, la Côte d'Or obtient sa 3e étoile et l'oiseau est désigné meilleur cuisinier de l'année. Écoutez-les sur France Inter.
Ah bah ça me fait énormément plaisir, hein. C'est fabuleux ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'ai 40 ans, tout commence pour moi, hein. C'est merveilleux.
Qu'est-ce qui vous fait courir ?
Moi, qu'est-ce qui me fait courir ? Mais c'est parce que j'ai une revanche sur la vie, c'est tout. Quand j'étais gamin, j'étais nul à l'école, on savait pas quoi faire de moi. Et on m'a mis dans la cuisine et j'ai dit un jour j'irai jusqu'au bout, quoi. Et là, j'ai mis tout sacrifié pour et j'ai maintenant aujourd'hui obtenu 3 étoiles. Mes spécialités, c'est les escargots aux orties, les jambonnettes de grenouille à la purée d'ail au jus de persil, le cendre à la fondue du château vin rouge et la poularde d'Alexandre Dumaine dans son pot en terre où on retire le couvercle, où il y a toute la vapeur de truffes qui sort du pot, où les gens sont là en train de saliver et tout. C'est une belle histoire.
C'est chez Bocuse que Bernard Loiseau emmène son équipe fêter la 3e étoile. Pour l'occasion, le chef lyonnais a fait venir 2 éléphants du Cirque Pinder. Si bien que c'est à dos de pachyderme, bouteille de champagne à la main, que les 2 chefs accueillent les invités. Ambiance. Bernard Loiseau est alors au sommet de sa carrière. Avant cette consécration, il a déjà été élu meilleur cuisinier du monde des moins de 40 ans par le Guide Hachette. Et selon un sondage Ipsos, il est désormais la toque la plus connue des Français. Oui, devant Joël Robuchon ou Paul Bocuse, s'il vous plaît. Il fait même la une du New York Times quelques semaines plus tard. Il est vrai que la magie de la cuisine oiseau, c'est l'authenticité, une simplicité délicate et intense. On retrouve tout ce qu'il est dans ses plats, un élan, un enthousiasme, une finesse, une précision incomparable. Une gourmandise aussi, qui se goûte et qui s'entend quand l'homme parle de sa cuisine. Par exemple, de sa recette de beurre d'ortie, pour un reportage d'Antenne 2.
Le beurre d'ortie, pour moi, a la consistance du beurre d'escargot, ça en retrouve tous les parfums. De l'ail, de l'échalote et tout, alors que c'est uniquement de l'ortie. Et c'est déjà un plat très très digeste. Et en plus, les escargots se nourrissent d'ortie. C'est ça qui m'a fait penser de marier l'escargot avec le beurre d'ortie. Et en plus, le beurre d'ortie est très poivré, il n'y a même pas besoin pratiquement de l'assaisonner. Il suffit à lui-même. Un jour, je descends dans ma chambre froide et je retrouve deux grands cajots de persil. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce persil ? Je me suis dit, mais le persil en purée, ça doit être certainement très très bon. Et alors là, mais on retrouve une saveur de persil et quelque chose d'extraordinaire.
Si le cuisinier est aussi doué, c'est parce qu'il aime manger, avec un rapport très physique, sensuel même, à la nourriture. Sa femme le reconnaît d'ailleurs, ce qui fait vibrer son mari, c'est moins de préparer des plats que de les déguster. On pourrait donc penser que son talent réside dans la qualité de son palais. Et d'une certaine façon, c'est le cas. Mais c'est grâce à sa femme, en vérité, que Bernard Loiseau parvient à l'exploiter, ce talent. C'est elle la clé de son équilibre. Cette diplômée de biochimie et microbiologie rencontre le cuisinier en 1988. Elle est alors pigiste pour un journal professionnel intitulé L'Hôtellerie. Et elle déclare « Son sourire, sa voix chaude, ses yeux plissés quand il riait m'ont séduite. Il était à la fois plein de projets, mais aussi de doutes, fragile et sensible. » 1 an plus tard, elle déménage à Saulieu, démissionne de son journal et épouse le chef. Elle s'occupe de leurs 3 enfants, de l'administration, elle est chargée de l'accueil des clients, de la décoration, des travaux d'embellissement. C'est elle qui lui permet d'être ce qu'il est, d'exprimer son talent. Et il en est parfaitement conscient, comme il en témoigne chez nos confrères de France 2.
On parle toujours de Bernard Loiseau, mais derrière moi, il y a quelqu'un de caché dont on parle pas, qui s'appelle Dominique Loiseau, qui est mon épouse. Mais sans elle, je serais rien. Vous voyez, si j'ai cet enthousiasme, cette joie de vivre, c'est parce que je suis heureux dans la vie privée. On dit toujours derrière un personnage se cache toujours une femme. Et ben moi, c'est Dominique.
C'est donc Dominique Loiseau qui ancre Bernard Loiseau. Elle le connaît mieux que personne. Elle sait la lumière et les parts d'ombre qui forgent sa personnalité. Elle sait que ce chef passionné, jovial, exigeant, est rongé par l'angoisse et le doute. Elle sait que la troisième étoile n'apaisera pas son mari bien longtemps. Il vient à peine d'atteindre le sommet qu'il a déjà peur d'en redescendre.
Chaque année, le guide sortait, puis je voyais jamais arriver cette étoile et tout. Et en définitive, quand je l'ai eu, bon ben, c'est très bien.
En
ils m'ont
91.
Téléphoné un jour, ils m'ont téléphoné, et puis ils m'ont dit voilà, Monsieur Loiseau, le guide Michelin vous descend de votre troisième étoile pour ce que vous avez fait, mais pas pour ce que vous allez faire, ce qui est normal. Hein.
Oui.
On
et
sait
alors,
pas ce qu'on va faire. Et ben là, j'ai fait un grand ouf, quoi. Et alors il me dit pourquoi vous faites ouf ? Ben je dis parce que je pensais l'avoir bien avant, bien plus tôt. J'étais un garçon assez pressé, quoi. Puis ils m'ont dit non, vous étiez un peu mûri trop tôt par la presse. Maintenant, c'est aujourd'hui que pour nous c'est parfait. Voilà, vous l'avez aujourd'hui. Mais le plus dur commence. C'est très dur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis toujours le même angoissé qu'avant. Parce que je me dis, est-ce que je vais encore la garder ? C'est très très dur. C'est très très dur quand on est au sommet. C'est très très dur, on ne peut que baisser.
Dans cette fragilité et devant elle, et plus que jamais, Dominique soutient son mari. Elle l'épaule dans tout ce que cet obsessionnel a besoin d'entreprendre. Et c'est peu dire que dans les années qui suivent, Loiseau entreprend. L'enfant d'Auvergne, nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1994, sort un livre de cuisine intitulé « L'envolée des saveurs ». Il lance un restaurant au Japon, à Kobe, développe une gamme de produits dérivés sous son nom, élabore des plats préparés pour la grande distribution, fait des travaux pour rénover la Côte d'Or, y installe un espace bien-être, un spa, et il assume cette diversification. Il dira « Je fais comme Yves Saint-Laurent dans la mode. Je garde la haute couture à son lieu et je décline mon nom et mon savoir-faire dans d'autres activités qui sont mon prêt-à-porter, en quelque sorte. » Entre 98 et 99, il ouvre également deux restaurants à Paris, Tante Louise et Tante Marguerite, entre au musée Grévin et fonde une société qu'il introduit en bourse. Ce qui est une première dans le monde de la gastronomie. Entre les années 90 et 2000, Loiseau étend sa présence dans les médias, qui s'arrache le personnage. Il passe chez Drucker, on le voit régulièrement chez Ardisson, il a même une chronique sur RTL les dimanches matins. Faire les choses bien et le faire savoir, tel est l'un de ses mantras. Mais s'il construit une marque, s'il travaille le marketing du groupe Loiseau avec acharnement, c'est que, en vérité, il n'a pas vraiment le choix. Parce que comme le disait Bocuse à l'époque, la cuisine au final, ça ne compte que pour 50%. Le reste, le nerf de la guerre même, c'est l'argent. Et le chef a tout donné.
Je suis qu'à m'arriver en sacrifiant beaucoup de choses. Hein. Je suis qu'à m'arriver à l'âge de 24 ans, j'en ai aujourd'hui 36. Et croyez-moi, je suis encore pas sorti de l'eau avec les investissements que j'ai faits. Et je suis là, je suis accroché au rideau, je m'accroche et puis je dis on va s'en sortir. Et croyez-moi, j'ai des dettes énormes sur le dos. Et je me dis mais de toute façon on va s'en sortir, on va y arriver. Et puis on serre les boulons de tous les côtés. Et puis j'ai aucun train de vie, et rien du tout. J'ai sacrifié tout, toute ma vie privée, tout. Je ne vis que pour ça. Actuellement, si vous préférez, j'attends que la poule chie un œuf quoi, pour payer. Quoi. J'ai rien d'avance, quoi. Je suis au jour le jour. Donc il faut vraiment serrer les boulons de tous les côtés, quoi. J'ai tout sacrifié, tout.
Bœuf, araignée de mer et caviar. Royal d'araignée de mer. Cœur de filet de bœuf de Salers. Au caviar, au cierre. Petite quenelle au caviar pressé. Galette de blé noir au navet blanc. Mille feuilles croustillant au château Climas, 1995. Pressé de choux, cœur de bœuf et chair de tourteau, assaisonné d'un beurre fondu, cerfeuille et miel d'arbousier. Une déclinaison d'asperges vertes et blanches. Le chevreau, pièce de chevreau rôti, feu d'enfer. Abat grillé, jeune fenouil. Et radis glacés en aigre doux. Caillettes aux olives noires de Luc. Cannelés à la pimpronelle. Et fromage de chèvre frais. Agrémenté d'une pâte de piment Nora. L'agneau. Aleton de l'Aveyron. Sel poêlé à l'origan, carré frotté d'un cahier de brebis en tandoori et timbales de riz à l'oseille pourpre. Escargot petit gris sauvage, lié d'un pesto de cerfeuil, feuilles cigarettes de chou Shanghai, panis. Deux personnes.
Aujourd'hui, le suicide du chef cuisinier Bernard Lavoisier.
France Inter. Affaires sensibles.
De son ami, Guy Savoy disait, de Bernard Loiseau donc, il avait un confort auquel il n'était pas habitué. Il aimait la lutte. Et là, il avait tout. Un peu comme un homme politique qui aime conquérir le pouvoir, mais qui ne sait plus trop quoi en faire lorsqu'il l'obtient. On en a connu. Et cette situation angoisse Bernard Loiseau. Un bague à l'âme qui s'accroît d'année en année. Les hivers en particulier se font plus durs. D'abord parce que c'est vrai, même si la région du Morvan est assurément l'une des plus belles campagnes de France, on a vu plus joyeux qu'un hiver à Saulieu, où le brouillard peut s'installer pendant des jours, tellement dense qu'on ne voit pas le trottoir de l'autre côté de la rue. Et puis c'est aussi une période creuse, l'hiver. Et c'est logique pour un restaurant. Or, la diminution momentanée de la clientèle panique le chef. Si les hauts de Bernard Loiseau sont de plus en plus hauts, ses bas sont de plus en plus bas. D'autant plus qu'il est incapable de s'arrêter, enchaînant interviews et services. Malgré sa notoriété, ses obligations administratives, financières, les impératifs de son statut de chef d'entreprise, Loiseau ne s'éloigne jamais de la Côte d'Or. Et son rythme est vertigineux.
Je me lève à 8h le matin. Donc je descends le matin, je vais déjà saluer tout mon personnel. On met en place la journée, on voit notre cahier de réservation des clients, de ce qui se passe. Et puis après, ben voilà, comme je vous dis, je suis un chef d'entreprise, je me retrouve le cul assis sur un bureau, en train de développer le courrier, de voir la comptable qui m'amène des chèques à signer, le bazar et tout. Donc c'est un autre métier là déjà. Ça, c'est pas le grand truc qui me plaît énormément, mais il faut quand même faire face à ça. Et puis après, arrive 11h, on mange ensemble avec le personnel. C'est l'heure de la soupe. Et puis après, à midi, les clients arrivent, donc moi je suis là, je suis tout le temps ici, je me dois à mes clients. Je dis que la gueule du chef est comprise dans l'addition, quoi. Et donc tout ça, ça fait le service. Après l'après-midi, alors moi je suis un homme de la nature, puisque je vous ai dit que j'étais de l'Auvergne. Alors moi, quand c'est l'époque des champignons, je prends mes bottes, je me tire dans la campagne aux champignons, où je me vide la tête quand même, hein, parce qu'on est quand même très pris, très sollicité et tout. Puis après, je rentre vers 5-6 heures, et puis là, c'est le soir de la soupe avec le personnel, et puis on rattaque le service du soir. Et puis le soir, ça peut durer très tard. Vous savez, on fait beaucoup d'heures, hein. Moi, je suis jamais couché avant minuit et demi, 1h du matin.
Bon, si la gueule du chef est comprise dans l'addition, que demande le peuple ? D'autant que la Côte d'Or est ouverte 365 jours sur 365. Le cuisinier ne s'arrête jamais. Il ne prend pas de jour de congé, ne part pas en vacances. Ses enfants, il les voit entre les services. Les anniversaires sont fêtés en fonction des horaires de la cuisine. Non, il ne veut pas s'arrêter, parce qu'il ne peut pas. Alors, Bernard Loiseau s'épuise à gérer ses angoisses. Lors d'une interview, il dira « J'ai tellement d'amour pour les autres. » J'ai toujours besoin de donner, de remonter le moral aux connus et aux inconnus. À la limite, si j'étais bourré aux as, je ne ferais payer personne. Vous savez, on croit que je fais un show, mais non, je suis tout le temps comme ça. Or, il a autant besoin de donner d'amour que d'en recevoir. Et la peur de ne plus être aimé devient peut-être plus importante au fil des années, le fragilisant. Guy Savoy raconte une fois, alors qu'il est avec Loiseau en chemin pour découvrir la cuisine d'un restaurant triplement étoilé en Alsace, son ami s'inquiète. « Tu crois que ça va leur faire plaisir qu'on vienne ? Tu crois qu'ils seront contents ?» Savoy répond qu'évidemment, les chefs du restaurant sont heureux de cette visite. Une fois dans l'établissement en question, l'une des clientes reconnaît Loiseau, lui explique qu'elle a acheté ses livres de cuisine, qu'elle adore ses recettes. Et là, une espèce de bonheur, de ferveur, de folie traverse le cuisinier qui se retourne vers Guy Savoy et qui lui dit, les yeux écarquillés, ben, « Ils sont contents que je sois là. » Et d'un coup, Bernard Loiseau comprend qu'on l'aime, qu'il compte. Alors c'est reparti pour un moment d'euphorie. Si le Michelin crée une quatrième étoile, j'irai la chercher, s'exclame-t-il. Bon, parfois le moral est plus difficile à remonter. Des crises d'angoisse provoquées par la peur de mal faire, l'absence d'inspiration, le paralyse. Comme en 92, alors qu'il est au Japon pour ouvrir un restaurant. En rentrant, il consulte un spécialiste et suit un traitement antidépresseur pendant quelques mois. Alors ça va mieux. Donc il arrête. Et puis ça va moins bien. Et puis mieux et moins bien. Aujourd'hui, sa femme, Dominique, sait qu'il était malade. Elle le raconte dans un livre, elle explique en 2021 une concert de RTL.
Beaucoup dit que c'est la crainte de perdre sa troisième étoile qui l'avait tué parce qu'il travaillait comme un acharné. Dans ce livre, vous expliquez avoir découvert qu'il était bipolaire.
Oui, bah disons que je l'ai su après, notamment par Philippe Labro qui a un peu étudié ce sujet-là. Mais au moment où Bernard est décédé, on ne parlait pas de la bipolarité. On n'en parlait pas. Et c'est après coup qu'un jour, Philippe est venu, quelques temps après, en me disant « Ben écoute, je pense que Bernard était bipolaire ». Et là, j'ai essayé de comprendre ce que c'était, et ça correspondait tout à fait à ce qu'était Bernard.
Il avait des moments de déprime. Un jour, il est même venu en vous disant « Je vais me suicider ».
Oui, quelques jours avant. Puis vous n'y avez pas cru, quoi. Quelques jours avant, le soir, en rentrant, en enlevant sa veste de cuisinier, effectivement, il dit ça. Et puis, bon, bah, je l'ai un peu... Je dis « Bon, Bernard, arrête hein. ».
On dit souvent que quand les gens le disent, ils ne le font pas.
Exactement. Et puis, tout allait bien. On avait une des plus belles maisons de France. Tout allait bien.
C'est dans l'Antiquité qu'on retrouve les premières descriptions du trouble bipolaire. Mais jusqu'en 1980, on parlait de maladie maniaco-dépressive. Manie, ça vient du grec ancien mania, qui décrit un état de fureur, de folie. Les troubles bipolaires, eux, se caractérisent par une fluctuation de l'humeur, c'est-à-dire une alternance entre des périodes d'euphorie, puis de dépression, et des périodes d'humeur stable. Et ce n'est pas une maladie aussi rare qu'on voudrait le penser, entre 1 à 2% de la population européenne est concernée. Mais surtout, cette pathologie réduit d'environ 10 ans l'espérance de vie des personnes touchées, notamment en raison des risques de conduite suicidaire.
Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de dérouler l'essentiel de l'actualité, ouvrons ce journal par l'hommage des plus grands de la gastronomie qui sont venus d'accompagner Bernard Loiseau, l'un des leurs, souvent un ami. Dans la basilique de Saulieu, tout un village entourait la famille du chef de la Côte d'Or qui s'est suicidé en début de semaine. Une cérémonie est retransmise sur un écran géant permettant à tous de faire ses adieux au restaurateur dont le cercueil était recouvert de son tablier blanc. Virginie Fichet, Olivier Jacquelin.
L'un des leurs est parti. Frères de cuisine de Bernard Loiseau, les plus grands noms de la gastronomie française sont venus pour lui et pour eux. Une femme et trois enfants, d'une incommensurable dignité, dira le maire du village. Aujourd'hui, Bernard Loiseau est parti, accompagné de ses deux familles.
Après l'annonce du décès de Bernard Loiseau, ce ne sont pas des questions liées à la santé mentale du chef ou aux tabous qui entourent encore les troubles psychologiques et psychiatriques qui prédominent dans les médias. Non, c'est sur les guides gastronomiques et la pression constante qu'ils exercent que l'on se concentre. Et deux éléments principaux l'expliquent, une rumeur et une note. La note, c'est le 17 sur 20 accordé par l'édition 2003 de Goemio à la Côte d'Or, quelques semaines avant le suicide de Loiseau. C'est 2 points de moins par rapport à la dernière notation de l'établissement. La rumeur, elle, c'est celle relayée par le Figaro, selon laquelle le chef risquait de perdre l'une de ses 3 étoiles en 2004. François Simon, chroniqueur au journal, écrivait ainsi à l'automne 2002 que le chef de ce lieu serait légitimement menacé au sein de l'institution du Guide Rouge. Mais une note peut-elle tuer ? C'est clairement l'avis d'André Daguin, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie qui lance sur LCI. J'espère que ceux qui ont fait cela ne vont pas dormir pendant longtemps et on y veillera. Ces propos sont repris par Libération, ainsi que ceux de la chef Hélène Darroze, qui admet être très en colère contre une certaine presse qui cherche à se mettre en valeur. Je reprends ces mots. Jacques Lamoise, cuisinier d'un 3 étoiles en Saône-et-Loire, cite Loiseau. Bernard m'a dit, si je perds une étoile, je me suicide. Et on en est tous là. Il s'amuse avec nous, à nous faire monter, à nous faire descendre. Je pense que c'est ce qui l'a fait craquer. Mais le plus virulent, c'est Paul Bocuse, le pape de la cuisine française, dont France 2 recueille les propos pour le 20h.
Bernard était pour moi un exemple de la profession. Dimanche, je l'ai eu encore au téléphone. Il m'a dit, tu sais, c'est compliqué avec la guerre du Golfe. On a moins d'Américains, on a moins de... Il avait déjà un peu de soucis. Et je le voyais déjà très perturbé. Je ne pense pas qu'il avait des problèmes financiers. Je ne pense pas. Il a dit, si un jour je perds quelque chose, je me suicide. Donc, il était très fragile. Vous savez, ces guides, même moi, si vous voulez, à 30 ans, on attend les guides. À 80 ans, on attend encore les guides. Donc, on est toujours sous pression parce que perdre une étoile, Goemio, pour moi, ça a moins d'importance. Parce que Goemio, pour moi, c'est des gens qui ont voulu faire un coup de pub, qui ont voulu faire un coup de matin. Un coup, je te mets 19.75, un coup 19.5, un coup, je te mets 13, un coup, je te mets 16, un coup, je te mets 20/20. Pour moi, c'est pas sérieux.
Pourtant, la femme de Bernard Loiseau dément ses accusations. Elle le dira elle-même. Personne ne l'a tué. Il souffrait du mal du siècle. Elle sait que la spirale infernale de la course à la gloire ne suffit pas à expliquer la mort d'un homme. À l'image du journaliste Péricoladas, qui écrit dans Marianne « Honte à celui qui prétend être dans le secret d'un père de trois enfants qui décharge son fusil de chasse dans sa bouche. » En réalité, au-delà de l'émotion suscitée par la perte de cet homme tant aimé, la mort de Bernard Loiseau permet à certains de crier tout haut ce que beaucoup pensent tout bas d'un milieu impitoyable nourri de rivalité. Les guides jaunes et rouges, les emblèmes d'un système opaque qui essouffle et qui étouffe les cuisiniers. Le suicide de l'un des leurs délie les langues des chefs et révèle la violente réalité des cuisines, en particulier gastronomiques. Entre les apprentis qui doivent tenir un rythme fou en faisant les 3-8, le tout pour un salaire à peine plus élevé que le SMIC, et qui ont l'impression de jouer leur vie sur un quart de tomate, et les grands chefs contraints à une excellence, une créativité, une délicatesse toujours plus haute, sans aucune marge d'erreur, et ce en assumant une charge administrative, financière et médiatique écrasante, ça fait beaucoup. Il commence donc à être nombreux ceux qui, au sein de l'élite gastronomique du pays, choisissent d'abandonner cette course aux étoiles. Alain Saint-Reims en 2005, Antoine Westermann l'année suivante, Olivier Rollinger qui en 2008 ferme son 3 étoiles à Cancale, Sébastien Bras en 2018 qui annonce vouloir les rendre, ses étoiles, ou encore Marc Vera qui en juillet 2019, après avoir été déclassé, fait une demande pour faire sortir son restaurant du guide Michelin. Mais pour Gwendal Poulenec, directeur international du Guide Rouge depuis 2018, la réponse est claire. Les étoiles du guide n'appartiennent pas aux chefs. Il ne leur appartient donc pas de les rendre. Toujours est-il que Bernard Loiseau, comme toutes celles et tous ceux qui ont mis fin à leur jour, a emporté avec lui sa vérité, celle de l'intime, que personne ne peut prétendre connaître. Son ami Pierre Perret l'a bien compris. En témoigne cette reprise en forme d'hommage au cuisinier pour France Culture dans l'émission Toute une vie, c'était en août 2021.
Allô cher Bernard, mon vieux Bernard, allô. Je te réveille ce matin, il est bientôt. Il pleut sur le Morvan, l'eau tombe à torrent. De la sauce, tu ne seras pas manquant. Ouvrez, ouvrez la cage à l'oiseau. Laissez-le faire sa cuisine à l'eau. Cuisinier, si vous voyez Bernard Loiseau se noyer, c'est que de sa sauce il aura trop usé.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le destin de Bernard Loiseau, dont nous parlons avec notre invitée Marie-Aline. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancienne critique gastronomique pour GQ, Le Monde ou encore Le Fooding, et vous êtes l'autrice du livre intitulé Les bouffeurs anonymes, paru l'an dernier chez HarperCollins, avec quelque chose de mystérieux dans ce livre, un angle très original, on va en parler un petit peu plus tard. Mais parlons évidemment de Loiseau. Alors, vous ne l'avez pas rencontré, vous êtes trop jeune pour ça d'ailleurs, apparemment.
J'aurais pu le rencontrer, mais à l'époque, l'époque, je n'allais pas dans les restaurants gastronomiques, je n'allais pas dans les restaurants étoilés.
Vous alliez au Resto U, non ?
Même pas, parce que j'ai pas fait d'études.
Bon, alors vous avez longtemps travaillé en tant que critique gastronomique. Donc, comment peut-on décrire la cuisine de Bernard Loiseau, même si vous l'avez pas goûtée, vous la connaissez, vous êtes documenté là-dessus.
Oui, c'est votre métier. J'ai pu notamment regarder des archives de l'INA, et puis aussi comparer ce que faisait Bernard Loiseau avec ce que faisait Paul Bocuse. Enfin, juste les menus. Mmh. Et la conclusion que j'en tire a posteriori, donc, c'est que c'était un homme très audacieux, qui célébrait la tradition, mais avec beaucoup d'inventivité et d'innovation.
Qui allégeait aussi, on disait, la cuisine traditionnelle.
Oui, il allégeait.
Comme un précurseur.
Il déglaçait à l'eau, déjà. À l'époque, tout le monde déglaçait plutôt au vin ou au verjus, mais déglacer à l'eau, c'était une hérésie. Son pote Paul Bocuse se moquait de lui.
On rappelle ce qu'est déglacer quand même pour ceux qui ne savent pas faire la
cuisine. Oui, quand on fait cuire une viande, par exemple, on peut mettre un petit trait de vin ou d'eau, du coup, pour faire remonter les sucs de cuisson et pouvoir les servir après. Mais il faisait aussi quelque chose... Enfin, il y a un plat, moi, que j'ai vu sur un de ses menus, qui est assez intéressant. Il servait le homard avec du chou farci. Et le chou farci, c'est quand même un plat très paysan, qui est très travaillé, qui demande beaucoup de patience. Alors que le homard, bon, c'est un mets qui symbolise le luxe, et qui peut être uniquement grillé, enfin, qui demande pas tant de préparation que ça. Et je trouve que ça symbolise bien l'état d'esprit dans lequel était ce gars qu'on a entendu parler, qui a une extraction paysanne, en fait, et qui travaille pour les...
Ben, c'est un peu tradition et modernité, pour reprendre une formule un peu éculée, mais c'est un peu ça quand même. La tradition du chou, il est auvergnat, déjà.
Oui.
Et puis cette façon d'alléger la cuisine de ces matières un peu trop grasses, finalement. Oui. C'est un précurseur, hein,
C'est un précurseur aussi. On l'a entendu parler du beurre d'ortie pour les escargots. Moi, ça m'a fait penser que 20 ans plus tard, donc oui, 2010-2012, René Redzepi, qui est le chef de Noma, qui a été longtemps le premier restaurant, enfin, qui a été premier sur la liste des meilleurs restaurants du monde, servait un pavé de biche avec les herbes que broutait la biche.
Ah ouais.
Et 20 ans plus tôt, on a Bernard Loiseau qui sert l'escargot avec les orties, parce que son argument, qui est très avant-garde, c'est il mange des orties, donc on mange les orties avec.
C'est une forme de circuit court. Finalement.
Un circuit très très court. Ouais. Ouais.
Alors, est-ce que cette cuisine a influencé les générations qui ont suivi celle de Bernard Loiseau?
Oui, comme on vient de le dire, déjà il déglaçait à l'eau, et puis il avait cette phrase assez révolutionnaire qui était « moins de beurre, encore moins de beurre, toujours moins de beurre », à une époque où tout le monde cuisinait au beurre, à la crème, etc. Et aujourd'hui, peu dans la génération actuelle cuisine avec du beurre.
Alors, cette affaire, qui est son suicide, quelques années après, est-ce que vous pensez, vous, que sa mort reste un traumatisme pour la profession? Et si oui, pourquoi?
Je ne pense pas que ce soit un traumatisme pour la profession aujourd'hui.
Ouais.
En revanche, sa mort soulève une question qui est encore actuelle. On l'a bien entendu dans le récit que vous venez de faire, les chefs sont... des gens de peu, qui tenaient pas des enfants, qui tenaient pas sur les bancs de l'école, qui ont un fond artistique, en fait, qui avait un peu du mal à s'exprimer, et puis ils sont jetés dans la profession de cuisinier, un peu par hasard. En tous les cas, à l'époque. Aujourd'hui encore, ça se passe comme ça. Pas toujours, il y a plus de vocations maintenant, parce que la télé, les médias sont passés par là. Mais il y a quand même toujours ce truc d'une sensibilité, en fait, qui va chercher à s'exprimer dans un univers qui est tout le temps mis sous pression. Une cuisine, on a chaud, il faut aller vite, on est sous pression. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Et c'est ça la question, en fait, qui se posait au moment de Bernard Loiseau et qui se pose encore aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on fait pour combiner cette sensibilité, qui est le cœur de l'identité culinaire qu'on va donner au travail, qu'on va donner à manger ensuite dans son restaurant, avec un besoin de reconnaissance. On l'entend bien dans les propos de Bernard Loiseau, il a besoin d'être aimé autant que d'aimer, et la dureté du métier, cette pression. Comment est-ce qu'on fait pour combiner tout ça?
Bien sûr.
Et ça, c'est une question qui est toujours actuelle, et qui trouve quelques réponses.
Il y a les écoles hôtelières aussi, quand même, qui pourraient...
Les écoles hôtelières, on pourra...
Enseigner, justement, cette façon de gérer ces deux contradictions.
On n'y est pas encore tout à fait.
Alors, il y a toujours les étoiles Michelin, évidemment. On a vu qu'il y avait des cuisiniers contemporains qui avaient dit cette institution des étoiles, allez, nous on n'en veut plus, on sort du système. Est-ce que c'est une tendance lourde, ça, chez les cuisiniers nouveaux, de dire à ce système-là, vous ne ferez plus la loi ?
Alors, je dirais qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a plus que le Michelin. Il y a aussi beaucoup d'autres acteurs, en fait. Il y a beaucoup d'autres guides. Il y a le fooding, il y a les réseaux sociaux. Il y a ce fameux classement des World 50 Best, qui est aussi qui met pas mal la pression. Et les chefs vont choisir un petit peu leur école. Donc le Michelin, évidemment, c'est toujours très important, et je pense que quand un chef gagne une étoile Michelin, il est aux anges. Mais ça colle peut-être pas autant de pression que ça pouvait le faire il y a une vingtaine d'années. C'est-à-dire que maintenant, c'est un peu plus éparpillé, c'est un peu plus dispersé. Et puis aussi, je crois que la nouvelle génération de cuisiniers a clairement réussi à déplacer le problème. C'est-à-dire qu'ils ont conscience que, déjà, leur métier les met sous pression. À quoi ça sert de se coller une pression supplémentaire ? Et je pense notamment à Sébastien Bras, qui explique très bien, en fait, en 2018, dans une vidéo, qu'il ne veut pas de cette pression.
Ouais.
Il veut pouvoir avoir un rapport direct avec les gens qui viennent manger dans son restaurant. Et ça, je trouve... Alors, Sébastien Bras, mais plein d'autres, en fait, font cette démarche de ne pas ajouter cette pression sur leurs épaules et d'avoir vraiment, du coup, carte blanche pour exprimer cette sensibilité dont on parlait tout à l'heure.
Qui sont les stars des cuisines aujourd'hui, ceux qui tiennent le pavé, si je puis dire ? Quelques noms ? Alors après, c'est subjectif, hein. Les noms que vous allez citer sont peut-être pas ceux que d'autres récitaient, mais allez-y, personnellement.
Bon, alors moi je pense qu'il y a, un chef de file de la nouvelle génération qui est Bertrand Grébeau, le chef de Septime, qui est quelqu'un d'une quarantaine d'années. Mais il y a aussi une jeune femme qui s'appelle Manon Fleury, qui elle, a une approche extrêmement nouvelle, justement, de la façon de pratiquer son métier de chef, et qui sera un modèle, je pense, pour les générations à venir. Qui va ouvrir un restaurant pour la première fois, d'ailleurs, en fixe, là, à l'automne, je crois, ou dans quelques semaines.
Alors, il y a chef et chef, avec deux F-E,
oui. Hein,
des hommes et des femmes. Je ne suis pas sûr qu'il a parité au plus haut niveau, ou on touche la parité maintenant ? Ou
il y a plus de femmes que d'hommes ? Je ne pense pas qu'on est encore à telle imparité, non.
Bon, mais chef, rappelons-le, peut s'écrire C-H-E-F-F-E.
France Inter. Affaires sensibles.
Marie-Aline, un dernier mot sur le restaurant La Côte d'Or, le restaurant de Bernard Loiseau. Alors, c'est sur la Nationale 6, il faut sortir de route. Il faut sortir à ce mur en soie, et puis vous arrivez dans un bel endroit, hein, c'est une très belle bâtisse, au centre de ce village, de cette toute petite ville qui s'appelle Saulieu. Et donc ce restaurant est toujours étoilé, deux étoiles, et ce sont... Je ne veux pas dire les femmes qui ont pris le pouvoir, parce que c'est des circonstances dramatiques, mais ce sont les femmes de la famille Loiseau qui s'occupent du restaurant maintenant.
Oui, je crois que sa femme, Dominique Loiseau, y est toujours. Ouais. Et il me semble que ses filles également ont pris les commandes, dont une au fourneau, si je ne me trompe pas.
Bon, bah voilà, ça fait des femmes dans restaurant. Ouais. Ouais. Bien, alors j'ai entre les mains le livre que vous avez écrit, Marie-Aline, Les bouffeurs anonymes. Alors il y a quelque chose de mystérieux, déjà la couverture représente... Un gros hamburger, genre ce qu'on mange en Floride, vous savez.
Ben oui, ça me rappelle quelque chose.
Et qui crève le plafond d'une salle où on peut se restaurer, mais qui ressemble plutôt à une salle de cantine. Je ne sais pas ce que vous avez voulu faire figurer. Oui. Mais qu'est-ce que ça nous dit déjà, cette couverture ?
Qu'est-ce que ça nous dit sur le livre ?
Et sur le livre, bien sûr.
Mais une grande partie du livre se passe en huis clos dans un très mauvais fast-food d'un des boulevards Maréchaux du 12e arrondissement. et la bouffe y fait irruption de façon assez violente.
Donc voilà, c'est un bouquin contre la malbouffe ? Dites-moi un peu.
Non, c'est pas du tout.
C'est quoi l'angle, déjà ? C'est très mystérieux. J'ai pas eu le temps de lire, je vous dis, parce que parfois de lire un livre.
Vous le lirez plus tard. Vous lirez plus tard.
Absolument.
Non, je dirais que c'est un livre qui va plutôt parler de notre rapport à l'autorité. Enfin, justement, si on peut tirer un lien entre ce dont on vient de parler, la vie si dure des cuisiniers, les critiques gastronomiques qui sont en surplomb. Je pense que alors le livre ne parle pas de ça parce qu'il parle plutôt de la société d'aujourd'hui, mais cette relation là peut être une métaphore qui est un peu tirée dans le livre. Ça parle de notre rapport à l'autorité. Et de solitude sociale aussi, je dirais.
Bon, ça reste mystérieux tout ça. Hein.
Ça reste encore mystérieux, mais peut-être il faut me poser une autre question
On peut pas teaser plus que ça. Il y a un scénario, dites-moi.
Ah oui, bien sûr, il y a un scénario.
C'est l'histoire de qui, de quoi, comment ça se passe?
C'est un critique gastronomique.
Ah, voilà.
Voilà. Mmh. Dans une vingtaine d'années, enfin, c'est une dystopie, donc. Et c'est un critique gastronomique qui travaille, en fait, pour le gouvernement, puisque le gouvernement a décidé de... Enfin, les Français ont voté pour que le gouvernement leur impose le bien-être à tous les étages.
Voilà, là, on est dans le thème.
Oui, oui. Bon. Et Thomas, donc le critique gastronomique, va aller. Il est tiraillé en fait parce que bien sûr il veut être reconnu, donc il veut travailler bien pour le gouvernement, etc. Mais il veut aussi pratiquer son métier de journaliste et il va trouver des bouffeurs anonymes qui se réunissent dans un fast-food dans le fin fond du 12e arrondissement. Et il va vouloir écrire un reportage sur ces bouffeurs anonymes.
Mais le livre s'appelle « Les bouffeurs anonymes ». Donc, ça m'amène à la question que je voulais vous poser. On a vu la pression des guides. Est-ce qu'il y a la pression des critiques? Quel est le rapport entre les cuisiniers, les chefs cuisiniers et les critiques? Est-ce que c'est une pression supplémentaire?
Alors, il y a deux écoles de la critique gastronomique, je dirais. Il y a l'école de « je m'annonce et je suis invité » et puis l'école de l'anonymat. La première est la plus commune et la deuxième fait trembler les chefs. La plus commune, c'est-à-dire que, bon, en plus aujourd'hui, les chefs, ils ont souvent des attachés de presse, donc il y a carrément un budget qui est prévu pour inviter les journalistes. Une fois qu'on est invité, c'est quand même difficile de dézinguer derrière. Ou alors on peut le faire, mais... et puis après, il y a l'école de l'anonymat, donc ça va être le Fooding, ça va être François Simon, ça va être le Figaro. Moi, j'ai été aux deux écoles. J'ai pratiqué l'école de l'anonymat quand j'étais OM. Si j'ai bien compris, ça continue à faire peur. Je ne sais pas si ça colle une pression d'enfer, mais ça continue à faire peur. Après, il y a les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est une nouvelle donne qui fait aussi peur aux chefs.
Dernière question, quelles sont les tendances là, aujourd'hui de la cuisine française? Rassurez-moi, la cuisine française a toujours la réputation d'être la première au monde ou pas?
Elle est dépassée? Elle est remise en question en tous les cas, elle est remise en cause.
C'est bien, c'est la concurrence.
Ouais, c'est très bien.
C'est l'élimination. Ouais. Bon, il nous reste 30 secondes. La grande tendance de la cuisine aujourd'hui, vous diriez quoi? Est-ce qu'il y en a une?
La grande tendance aujourd'hui, ça va être changer la façon de travailler dans les restaurants. Ça va être alléger les horaires, le rythme harassant qu'on vient de voir. Exactement.
Bien. Merci infiniment, Marie-Aline. Je rappelle le titre de votre livre, Les bouffeurs anonymes chez HarperCollins Traversée. Merci. Au revoir.
Merci à vous.
C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le suicide de Bernard Loiseau, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Mathieu Bérény.